BPM, élection municipale 2020.
Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre sur BPM, les élections municipales auront lieu le 15 et le 22 mars prochain. À cette occasion, BPM vous propose jusqu'au 13 mars des émissions spéciales. Les candidats de l'IMEM, Mantes-la-Ville et Mantes-la-Jolie, viennent répondre à nos questions. Aujourd'hui, nous nous intéressons à Mantes-la-Ville et nous accueillons Romain Carbonne de la liste Nous Mantes-Villoire. Romain Carbonne, bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Eh bien de rien, vous êtes né le 8 novembre 1983 à Aubergenville. Vous avez 36 ans, vos grands-parents sont arrivés à Mantes-la-Ville en 1957, vous êtes marié, père de deux enfants, vous avez toujours vécu dans le Mantois et depuis une dizaine d'années, vous vivez à Mantes-la-Ville. Après avoir eu votre bac à Rostand, à Mantes-la-Jolie, vous partez à Rouen pour passer votre diplôme universitaire de technologie en génie électrique et informatique industriel de 2002 à 2004. Puis de 2004 à 2007, vous finissez votre cursus universitaire à Compiègne où vous sortez ingénieur. Depuis, vous êtes chef de projet à Paris. Cela fait 6 ans que vous êtes investi dans la vie mantes-villoise, notamment avec le collectif de réflexion et d'initiative citoyenne. Depuis 2 ans, vous construisez votre projet municipal. Vous le qualifiez de sérieux et cohérent. Le nom de votre projet, c'est Nous Mantes-Villois. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous présenter, Romain Carbonne ?
Ce qui m'a donné envie de m'intéresser à la vie politique, c'est en 2014, quand au dépouillement du premier tour, je sors un bulletin sur deux qui porte le nom de Cyril Nôtre. Et à ce moment-là, avec d'autres, on lance le collectif de réflexion et d'initiative citoyenne pour informer, pour intéresser nos voisins, un maximum de nos voisins, de nos amis, des habitants de Mantes-la-Ville à la vie politique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on défend le projet Nous Mantes-Villois. C'est que fin 2017, encore une fois, avec d'autres habitants, on se demande, les élections municipales approchent, qu'est-ce qui va se passer ? À qui on va confier le destin de Mantes-la-Ville sur le prochain mandat ? À qui on va faire confiance ? Et n'ayant vu aucune proposition sérieuse se arriver pendant ces 5 premières années de mandat, et ben on a pris nos responsabilités. On s'est d'abord demandé... Quelle pouvait être la ligne politique. On a construit la ligne politique et à partir de là, on s'est donné 2 ans pour monter ce projet sérieusement en prenant en compte les avis des habitants pour définir les priorités et les objectifs et en construisant une équipe solide, confiante, qui est montée en compétences, qui s'est formée et qui aujourd'hui est prête pour prendre ses responsabilités sur le prochain mandat.
Alors, 5 listes au premier tour, est-ce que vous partez pas divisé ? Parce qu'alors, en 2014, hein, ça a été la division qui a fait élire Cyril Nôtre, maire de Mantes-la-Ville. La question reste posée, là, au premier tour, 5 listes.
La division, c'est qu'on a des projets qui sont totalement équivalents et que chacun veut partir de son côté pour défendre des projets équivalents. Il se trouve qu'aujourd'hui, avec le projet Nous Mantes-Villois, avec l'implication qu'on a donnée, avec le rôle qu'on a donné aux habitants et tout le travail, tout l'engagement qui a été fait pendant ces 2 ans, au moins, et puis beaucoup plus pour d'autres personnes au sein de l'association, au sein du conseil citoyen, au sein d'autres associations qui engagées sur la ville. Ces valeurs-là, ces principes-là n'étaient défendus par personne. Et l'autre raison, c'est que évidemment 2014 a été un traumatisme énorme pour beaucoup d'habitants, en fait pour tous ceux qui sont là depuis au moins 2014. Et il était invraisemblable pour beaucoup d'habitants qui nous l'ont dit à chaque fois qu'on les sollicitait de pouvoir refaire confiance à des gens qui ont participé à cette catastrophe de 2014. On les a écoutés, on les a entendus et c'est pour ça qu'on défend ce projet-là avec nos valeurs et avec nos principes.
Alors, admettons qu'au deuxième tour, vous soyez troisième. Qu'allez-vous faire ?
Eh bien, on va discuter très sérieusement et très tranquillement avec l'ensemble des autres listes pour trouver la configuration la plus efficace qui ne laisse pas la moindre chance au Front National de rembarquer la ville dans 6 années de tristesse et de galères supplémentaires. Et en aucun cas, je prendrai la responsabilité de jouer la ville sur un coup de poker. Ça fait 6 ans que je m'investis, ça fait les habitants connaissent mon engagement et il est hors de question que je participe moi à ce que j'ai vécu tristement il y a 6 ans.
Alors dans votre programme, vous indiquez vouloir changer les pratiques municipales. Vous souhaitez notamment associer les habitants oui. aux décisions de la municipalité et mettre en place une gestion municipale transparente. Aujourd'hui, elle ne l'est pas ?
Évidemment qu'elle ne l'est pas. L'accès à l'information municipale, l'accès à l'action municipale arrive uniquement par, par les canaux municipaux, c'est bien normal, mais elle arrive tronquée, elle arrive dissimulée, elle arrive avec des éléments qui sont présentés de manière hypocrite ou mensongère. Et surtout, elle arrive très tardivement. On est toujours devant le fait accompli sur énormément de sujets. Et donc, la première chose à faire, c'est de donner de l'information et de la donner de manière la manière la plus factuelle possible et de la plus fréquente possible. Donc ça, c'est le premier point qu'on peut mettre en place, c'est de donner un maximum d'informations aux habitants pour qu'ils aient conscience de l'action municipale, de pourquoi telle décision est prise, sur quels critères, de pourquoi on a pu faire ce projet, pourquoi on n'a pas pu faire ce projet, où en est-on, etc., etc. Ça, c'est vraiment le premier point. C'est à partir de ça qu'on va pouvoir construire tout le reste. Et à partir du moment où on a des habitants qui sont informés, qui sont éclairés sur les décisions, on va pouvoir les solliciter, on va pouvoir les impliquer réellement dans les projets.
Alors, on va passer au volet association. Vous voulez donner aux associations mondevilloises les moyens de développer leur oui. action. Déjà, première question, comment allez-vous faire en leur donnant plus de subventions ?
Les subventions, évidemment, on a une enveloppe aujourd'hui qui est ridicule par rapport à par rapport à Mantes-la-Ville, par rapport au nombre d'habitants, par rapport à la vie associative qui aujourd'hui est vraiment dans un état de vraiment c'est douloureux de vivre ça. On a une ville de 20 000 habitants, on a un forum des associations où plus de la moitié des associations ne sont pas de Mantes-la-Ville, et donc il faut redynamiser cette vie associative parce qu'elle participe comme les commerçants, comme les professionnels à la vie de la commune. Donc il faut travailler avec les associations pour qu'elles soient partenaires de la commune et leur donner les moyens de réussir et d'avoir des projets qui sont ambitieux. Ça passe évidemment par des subventions en réaugmentant l'enveloppe allouée aux subventions, mais pas que. On a besoin de locaux, on a besoin de soutien logistique, on a besoin de soutien administratif pour être capable de monter une association correctement, d'aller chercher des subventions ailleurs, parce que évidemment vous êtes bien conscient que tout ne pourra pas venir de la mairie, mais les subventions existent ailleurs, et donc pour aller les chercher il faut remplir les dossiers, et souvent c'est pas simple. Et donc la mairie peut proposer une aide pour monter les dossiers, trouver le bon interlocuteur. Et le dernier point, c'est pour un certain nombre d'associations qui travaillent durablement sur la ville et qui sont des partenaires de la ville, vraiment sur des sujets où la ville délègue, entre guillemets, certains services, de travailler avec des contrats triennaux pour justement essayer de pérenniser l'action, éviter ce stress tous les ans d'aller devoir chercher des subventions, notamment au niveau de la mairie, et de vraiment de travailler avec les associations comme des partenaires de la vie mantevilloise.
Alors, comme on parle d'association, on va parler de réhabilitation d'équipements sportifs. Oui. Pour vous, vous voulez réhabiliter quels équipements à Mantes-la-Ville?
Bah, à peu près tous les équipements sont dans un état qui nécessite un investissement. Il va falloir prioriser. On pense notamment à tous les équipements qui sont utilisés par les associations, par les écoles, par les clubs sportifs. On pense au gymnase Guimier. En premier lieu parce que voilà, il est dans un état assez lamentable, notamment au niveau des vestiaires, on a des fuites, etc. On pense aussi au stade Polianoc où le terrain, la pelouse n'est pas praticable bon nombre de jours dans l'année, et ce qui est vraiment préjudiciable pour les clubs qui doivent y jouer, qui doivent recevoir des équipes. Ça ne renvoie pas une très bonne image de la ville. On a envie que la ville rayonne et que voilà, qu'on parle de Mantes-la-Ville en termes positifs. Et donc l'investissement, il va devoir se faire là, et il va devoir aussi se faire sur les équipements de plein air pour pratiquer quotidiennement, pour permettre aux habitants de pratiquer quotidiennement. Et donc là, c'est au Brouet, c'est au village, où c'est pas un stade de foot qu'on a, c'est un terrain de pétanque et qui met aussi en danger les jeunes, les enfants qui jouent dessus. Donc il va falloir travailler sur cet investissement-là, parce que c'est simplement ce dont peuvent prétendre légitimement les habitants.
Alors on va passer au commerce mantevillois. Selon vous, quel est l'état du commerce à Mantes-la-Ville ?
Il est difficile, les commerçants vous en parleront mieux que moi, mais aujourd'hui, Mantes-la-Ville, c'est une ville où qui n'est plus attractive, qui n'arrive plus à attirer des gens. On a des commerces de proximité qui sont en grande difficulté. La plupart des habitants de Mantes-la-Ville vont faire leurs courses ailleurs, pour différentes raisons, hein, parce que Il n'y a pas suffisamment de transports en commun parce qu'il n'y a pas l'offre suffisante à Mantes-la-Ville. Et donc, il y a un gros chantier là-dessus pour redynamiser cette vie commerçante, pour aider ceux qui sont déjà là à avoir plus de visibilité, attirer plus de monde et de travailler autour de ça pour augmenter le commerce, notamment en essayant de permettre à une activité nouvelle de pouvoir tester son business, tester l'affaire avec des boutiques éphémères comme ça se voit déjà ailleurs, pour justement tester un business plan, tester un nouveau commerce en partenariat avec la mairie.
Alors, dans votre programme, vous voulez que la ville de Mantes-la-Ville s'engage pour toutes les générations. Alors, on va commencer par la petite enfance. Vous voulez développer le service public local de la petite enfance. Pourquoi ?
Ce qu'on veut développer, c'est l'accueil en petite enfance et notamment les accueils en crèche qui sont très, très largement insuffisants à Mantes-la-Ville pour une ville de 20 000 habitants. On a des structures en dur. Mais ce sur quoi on va très largement appuyer dès le début du mandat, c'est pour remonter les effectifs d'accueil en crèche familiale avec des assistantes maternelles en crèche familiale. Ça crée de l'emploi à Mantes-la-Ville, ça crée de la confiance aussi dans les parents, ça facilite le dépôt des enfants et ça ramène du service et de l'attractivité à Mantes-la-Ville sur un service qui a complètement été abandonné par le maire et laissé au privé. L'offre privée existe, c'est tant mieux, mais la ville ne peut pas abandonner complètement et laisser l'accueil petite enfance complètement privé. Il faut qu'on ait une offre et il faut qu'on ait une offre adéquate avec la population.
Alors, pour les maternelles, vous voulez renforcer les ATSEM, qu'il y en ait plus.
Oui, les ATSEM et les effectifs de cantinières, de femmes de ménage qui sont aujourd'hui dans une très grande souffrance à cause du sous-effectif imposé par la mairie. Et donc, évidemment, il va falloir, pour donner un service de qualité aux enfants, aux enseignants, il va falloir remobiliser les équipes et leur donner les moyens de réussir correctement et d'arriver le lundi en n'étant pas complètement désespéré de la situation et fatigué de leur semaine précédente, et leur donner les moyens de remplir ce service de manière qualitative, c'est aussi d'augmenter les effectifs pour avoir simplement des effectifs satisfaisants et pour que chacun puisse travailler dans de bonnes conditions.
La jeunesse maintenant, que proposez-vous pour les jeunes mantevillois ?
La solution, elle existe à Mantes-la-Ville. Malheureusement, c'est comme tout le reste et tout ce qui concerne l'action sociale de manière en particulier, c'est de repartir des centres de vie sociaux. On a 3 centres de vie sociaux, enfin 2 qui sont passés maintenant en espace de vie sociaux. Et donc, il va falloir retrouver l'accréditation, il va falloir aller rechercher des subventions au niveau de la CAF. Et c'est de repartir de ces structures-là qui existent et qui permettent à la fois aux enfants, aux parents, aux adolescents et à nos aînés de pouvoir y faire des activités, se rencontrer et monter des projets. Donc on repart de là, parce que ça existe, en montant une équipe sur chacun de ces trois pôles et en construisant un projet global pour la ville. Et une fois qu'on a monté ça, une fois qu'on a cette fondation-là, une fois qu'on a cette base-là qui est solide, à partir de là, on peut développer le reste de l'action. Mais on peut pas partir dans tous les sens. Il faut un moment, voilà, repartir de la base. Et la base, c'est les CVS. Alors, et faire en sorte qu'ils soient ouverts au moment où les gens ont besoin de l'utiliser. Ça veut pas dire qu'ils seront ouverts toute la nuit. Ça veut dire qu'il y aura très probablement, puisque la demande existe, des créneaux en soirée.
Alors, on va terminer ce chapitre intergénérationnel par les seniors. Que proposez-vous pour nos aînés?
Déjà de pouvoir rester à Mantes-la-Ville et donc de travailler très sérieusement au fait de pouvoir avoir des habitats sur ce tiers âge qui permettent à un certain nombre d'habitants de rester à Mantes-la-Ville et de pas être obligés de partir dans d'autres villes, dans des EHPAD publics ou privés. Donc cette offre-là qui n'existe pas à Mantes-la-Ville, on va se donner les moyens de la réaliser, de la concrétiser. Ensuite, augmenter l'enveloppe allouée au CCAS, au Centre communal d'action sociale, qui a été diminuée de presque de moitié en 6 ans, tout simplement pour continuer à accompagner le maintien à domicile, la solidarité municipale envers, envers les personnes âgées.
Alors, on va parler de la désertification médicale. C'est un sujet qui revient dans toutes les villes de France.
Malheureusement.
Bah oui, malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Comment on peut aller chercher des médecins?
Il faut regarder autour de nous ce qui se fait et ce qui réussit. Qu'est-ce qui est attractif aujourd'hui pour des médecins? On a des exemples nombreux qui bénéficient ici d'aide régionale, là de, du département, etc. Mais globalement, la structure qui réussit le mieux à être attractif, c'est le centre municipal de santé, c'est-à-dire où on a des médecins qui sont salariés de la ville, qui n'ont pas la gestion administrative du secrétariat, etc., qui sont juste là pour soigner les habitants. Cette offre-là, elle est attractive dans de nombreuses villes et elle permet à la fois à de jeunes médecins de s'installer, de pratiquer directement et aussi à des médecins plus, qui ont plus d'expérience, justement de transmettre leurs compétences à leurs jeunes collègues et de délaisser une partie administrative qui peut être un peu rébarbative. Cette offre-là, elle fonctionne, elle marche, elle est attractive, elle demande évidemment un investissement au démarrage, mais cet investissement aujourd'hui, vous venez de le dire, il est absolument nécessaire, et notamment à Mantes-la-Ville qui est passé en 6 ans d'un presque désert à un complet désert médical. Donc, notre priorité sur ce sujet-là, sur le sujet de la santé, sur le sujet de l'offre médicale, c'est de mettre en œuvre un centre de santé municipal en allant chercher des subventions là où elles se trouvent, à la région, au département et auprès de l'Agence régionale de santé.
Alors, il nous reste 3 minutes. En 1 minute, vous voulez également, vous avez dans votre programme, pardon, un chapitre consacré aux personnes en situation de handicap. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous souhaitez plus d'élèves à l'école, l'inclusion scolaire, et également plus d'accessibilité aux services municipaux et aux espaces publics pour les personnes en situation de handicap.
Il faut finir le travail, il faut faire en sorte que les équipements municipaux, que les services municipaux soient accessibles à tous, aux personnes voilà, qui ont des difficultés à se déplacer, mais aussi à celles qui ont des difficultés à voir ou à entendre. Voilà, donc aujourd'hui cet accès-là physique ou en termes d'information, il n'existe pas. Et dans les classes, c'est effectivement travailler aussi avec les équipes pédagogiques pour mettre à disposition des équipes pédagogiques et des enfants qui en ont besoin le personnel nécessaire pour accompagner ces enfants-là.
Dernier sujet, dans votre programme, vous parlez d'environnement. Vous souhaitez notamment l'installation d'un conseil de transition écologique. Alors, quel sera le fonctionnement et le but de ce conseil?
Dans notre projet municipal, on a écrit que l'écologie serait au cœur de l'action municipale et que le critère de l'environnement écologique serait apprécié pour toutes les décisions qui seront prises par le conseil municipal ou qui seront proposées au conseil municipal. Ce conseil de la transition écologique, il doit être justement là pour guider, orienter, être force de proposition et de préconisation et aussi suivre l'action municipale. On n'a plus le temps de se disperser, on n'a plus le temps de regarder les fleurs pousser, il faut agir vite et il faut agir bien. Et donc, il faut s'entourer de compétences et de personnes qui sont directement impliquées par l'environnement. C'est les bailleurs, c'est les élus, c'est les commerçants, c'est les habitants, c'est l'État. Et donc c'est toutes ces personnes-là qu'on veut mettre autour de la table, autour de ce qu'on appelle donc le Conseil de transition écologique, comme il existe un Conseil local de prévention de la sécurité et de la délinquance, le CLSPD, sur les sujets justement de sécurité et de prévention de la délinquance. Ce dispositif existe pour le sujet de la sécurité. On va dupliquer exactement le même principe pour l'enjeu écologique.
Vous souhaitez mettre plus de place de nature dans la ville. Vous voulez mettre plus de nature dans la ville aussi, également. Vous voulez plus de fleurs, plus de quoi?
Non, on a besoin. Non, mais c'est. On peut prendre ça sur le ton de la rigolade. Quand en été, on a des canicules et on n'a pas un arbre pour faire de l'ombre. Quand aujourd'hui le maire construit et bétonne un parking alors qu'on est dans un quartier où le parc le plus proche c'est le parc de la Vallée et qui est à 2 km où il n'y a rien pour les enfants, il n'y a pas de banc pour s'asseoir, il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien du tout. On est dans une ville qui a été très très massivement bétonnée, goudronisée, il n'y a plus d'espace vert. Et c'est pas juste pour décorer. C'est aussi pour anticiper les périodes difficiles qui s'annoncent et qu'on a déjà vécu. Donc voilà, c'est pas mettre une fleur dans un pot au milieu de la table. C'est préparer la ville et les habitants au futur très proche qu'on a déjà vécu. Et évidemment, on va essayer de faire en sorte que ce soit aussi agréable à vivre, parce que là, on veut sortir la ville de cette grisaille et de cette tristesse dans laquelle elle s'est enfoncée depuis des années.
Romain Carbone, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous, merci beaucoup.
Cette émission sera rediffusée à midi et 18h. Demain, nous recevrons Samy Damergi à 7h30, puis Eric Vézatener à 8h30. Excellente journée à l'écoute de BPM.
BPM, élection municipale 2020.